Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices de la web radio du Rage, voix de jeunes, bonjour, bienvenue. Toujours dans le cadre de la semaine d'octobre que nous avons organisée à l'occasion du 30e anniversaire de la révolte d'octobre 88, la web radio du Rage continue ses rencontres, ses entretiens avec des représentants des partis politiques, syndicats et associations, journalistes et militants. Cette fois-ci, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau de la web radio du Rage M. Marianne Mzi, qui est secrétaire général du syndicat national SNAPEST. Bonjour, monsieur Mrian.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le débat d'aujourd'hui, ce sera autour d'octobre 88. Donc, on commence avec la question qu'on a l'habitude de poser à nos invités. En tant qu'Algérien, comment vous avez vécu les événements 88?
Encore une fois, merci pour l'invitation. Ben, vous savez, c'est toujours avec émotion qu'on parle d'octobre 1988. Maintenant, vu de 2018, moi, je pourrais dire que c'est le temps des regrets. Le temps des regrets, on en reviendra par la suite. Maintenant, comment j'ai vécu, on l'a vécu comme vécu par tous les Algériens. Mais on s'attendait tellement qu'il y avait beaucoup d'accumulation, beaucoup d'injustice et beaucoup de hogra, comme on dit dans le langage de chez nous, beaucoup de hogra. Donc il fallait s'attendre à ce qu'il y ait bien sûr un soulèvement, il suffit d'une étincelle, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, comment on l'a vécu à l'époque 88, je me souviens, bon, qu'il y avait qu'une seule télévision unique, et télévision unique, vous savez comment les émissions sont contrôlées, sont vraiment filtrées, mais il y avait, à l'époque, c'était l'entrée des paraboles. Donc on pouvait suivre les événements à travers, surtout Alger, à travers les paraboles qu'on arrivait à capter par satellite à l'époque. C'était dramatique. Ce qui était dramatique, c'est qu'il y avait beaucoup de violence, c'est que le mouvement n'était pas un mouvement revendicatif pacifique, mais ça a dérapé dès le départ sur le saccage de tous les immeubles, de tous les édifices, et moi je dirais les édifices et les biens publics, du public eux-mêmes. Lorsqu'on met du feu à la case orale où les pauvres vieux viennent rembourser à des pharmacies, donc c'était, on faisait du mal à nous-mêmes sans se rendre compte. C'était le ras-le-bol incontrôlé. Et il était incontrôlé. Le fait qu'il était incontrôlé, spontané, c'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de dérapages. Et c'était un mouvement, moi je dirais, par la suite, à partir du moment où il n'était pas canalisé par une force politique bien déterminée, il y a eu de la récupération par la suite, on l'a vu. Mais dès le départ, c'était un mouvement spontané des jeunes, de la population qui avait le ras-le-bol. Et c'est pour cela qu'il a fini comme il a fini.
Justement, sur cette question, il y a beaucoup de débats sur ce qu'on appelle la théorie du complot. Il y a ceux qui disent, voilà, le peuple algérien n'était pas prêt. Il y a des luttes au niveau au sérail du pouvoir. Donc, pour régler les équilibres entre eux, ils ont fait sortir le peuple. Il y a donc, selon vous, est-ce qu'il y a de la manipulation? Est-ce que la société, ça veut dire, il n'était pas vraiment prête pour sortir dans la rue?
Non, on peut dire qu'il y a eu de la récupération, mais pas de la manipulation au départ. Vous venez de soulever un point très important. Et c'est vrai, on est Algérien, on vit en Algérie. C'est toujours une lutte clanique. Et les clans, ils se font pas la guerre d'une façon frontale. Ils se font la guerre par le peuple interposé. Donc c'est vrai, lorsqu'ils ont envie de se faire la guerre, ils utilisent la population, ils font la guerre par le peuple interposé. Mais 88, c'était un ras-le-bol. C'est-à-dire qu'il y avait comme, pour qu'il y ait l'explosion, et j'ai pas en mémoire la phrase utilisée par Mouloud Mamri Lahiramou dans l'Opium et le Bâton, lorsqu'il y a trop d'accumulation, trop d'injustice, il suffit d'une petite étincelle pour allumer dans le ciel de Dieu un incendie grandiose. C'est ce qui s'est passé. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu manipulation. Peut-être qu'il y a eu récupération lorsque le mouvement tirait vers la fin. Mais au départ, c'était beaucoup plus spontané, un ras-le-bol, un ras-le-bol, ça y est, la goutte a fait déborder le vase et le mouvement, il était incontrôlé. Parce que s'il était vraiment manipulé, moi je dirais qu'ils auraient eu un objectif. Ils ont eu un encadrement, ils vont recevoir des ordres. Non, les jeunes ne recevaient pas des ordres. Les jeunes, malheureusement, cassaient tout sur leur passage. Il n'y avait pas d'objectif. Il n'y avait pas aussi de revendications politiques. C'est beaucoup plus des revendications sociales. Donc à partir du moment où c'est des revendications sociales, donc ça ne peut pas émaner d'un groupe politique ou bien d'un clan au pouvoir au détriment d'un autre. C'était beaucoup plus social.
Donc c'est une explosion spontanée.
C'est une explosion spontanée de ras-le-bol. Lorsqu'il y a un ras-le-bol, ça explose, il y a accumulation, et il n'y a pas les dispositions de la société à sortir dans la rue. Ils sont sortis dans la rue. Malheureusement, comme je viens de dire, ça n'a pas été pacifique, ça a été vite récupéré par le pouvoir central.
Justement, parlons de la récupération, on a constaté, ça veut dire, elle a été récupérée par le mouvement islamiste après ce mouvement. Donc, le courant démocratique progressiste à l'époque, et pourtant il y a des militants qui travaillent dans la clandestinité et tout, donc on dirait ils étaient absents. Même, il y avait un mouvement culturel berbère qui est très actif, mais il a pris un peu de recul. Donc, pourquoi, ça veut dire, ce mouvement il n'a pas été encadré? Est-ce qu'il y a faute d'absence d'élite ou c'est les islamistes qu'ils étaient plus organisés et prêts à encadrer ce mouvement?
Vous savez, c'est une équation très complexe, beaucoup, beaucoup complexe, parce que le pouvoir central aussi, à la fin, il a essayé de récupérer le mouvement. Donc, infiltrer le mouvement, c'est vrai qu'il a laissé faire, moi je dirais, les islamistes. Et par la suite, c'est avéré que c'est voulu de laisser les islamistes encadrer le mouvement pour la suite venir bipolariser la scène politique et faire l'infice. Donc, dès le départ, ils avaient cet objectif. Si le mouvement était entre les mains des démocrates et de la gauche, comme vous venez de dire, ça aurait été un danger véritable pour le pouvoir central. Mmh. Donc voyons venir le danger. Donc ils ont laissé faire les islamistes pour encadrer la marche, où il y a eu des centaines de morts, malheureusement. Ça a tiré sur la police, sur les militaires. Le militaire, ils ont répondu, il y a eu des centaines de morts reconnues par le pouvoir central. Donc ils ont laissé faire pour essayer de bipolariser, et c'est ce qui s'est passé par la suite. Je répète, la bipolarisation du mouvement politique qui est venu après entre les FLN et le FIS démontre que l'infiltration, la récupération et l'infiltration est autorisée pour le pouvoir central pour essayer de récupérer vraiment le mouvement. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qui s'appelle aussi, il faut le dire, jouer avec le feu. Ils ont joué avec le feu. Et la décennie noire n'est pas tombée du ciel. Donc l'incendie, effectivement, il était là. Ils ont joué avec le feu. L'Algérie a failli être brûlée. Maintenant, il faut dire aussi, il y a une timidité de la part des démocrates, de la part des hommes, je dirais, de la gauche algérienne en général, qui a essayé un peu d'être dans le mouvement, mais le pouvoir central a joué un rôle prépondérant pour les effacer au détriment des islamistes, parce qu'ils sont plus dangereux que les islamistes.
Voilà. Donc, c'est important ce que vous venez de dire. Il y a l'événement, les événements tragiques d'octobre 88, c'est 5 jusqu'au 10 octobre. Donc après, comme réponse à ce mouvement, le pouvoir central, donc à sa tête le président Chadli, a déclaré des réformes. Donc, c'est des réformes démocratiques beaucoup plus. Là où il a accordé, ça veut dire dans la Constitution 89, reconnaît le pluralisme politique, la liberté d'association, constituer des associations, des syndicats, des partis politiques, des journaux. Et aujourd'hui, 30 ans après, ces acquis démocratiques, qu'en est-il de ces acquis démocratiques? Que reste-t-il de ces acquis démocratiques en matière, ça veut dire l'exercice sur le terrain, non ce noir sur blanc?
Si vous permettez, avant de parler de ces acquis, je vais revenir un peu à la demande de la jeunesse qui était dans la rue. La jeunesse qui était dans la rue et la population d'une façon générale, ils n'ont pas réclamé des réformes politiques. Ils n'ont pas réclamé l'ouverture politique ou bien associative. Ils n'ont rien réclamé. Ils ont réclamé une vie décente. Ils ont réclamé une justice sociale. Ils ont réclamé un pouvoir d'achat décent pour que l'ouvrier puisse venir aux besoins de sa famille dans la dignité. Voilà ce qu'ils ont réclamé. Le pouvoir central à l'époque, on a vécu une crise économique vraiment très aiguë, n'est-on pas capable de répondre aux aspirations, n'est-on pas capable de répondre à la demande de la rue? Donc ils ont fait, moi je dirais, diversion pour aller vers des réformes économiques, soit disant que ces réformes économiques, ce sont ces réformes économiques qui vont ramener des solutions aux problèmes posés par les citoyens, ce qui était faux. Même s'il y avait cette ouverture politique économique, là aussi c'est à des fins, moi je dirais, d'une oligarchie qui allait se mettre en place dès 88 et que l'on voit actuellement. C'est pour bénéficier des prêts
bancaires. Donc c'est un besoin à l'intérieur du régime.
À l'intérieur du système politique. Il fallait s'ouvrir. Il fallait mettre les sociétés qui étaient le fleuron de l'économie algérienne, de la petite et moyenne industrie. Je citerai Sonitex qui a disparu, Sonitex, Sonipec qui est les souliers de Sonipec rivalisés avec les souliers italiens. Tout ça a disparu pour laisser place à ces réformes politiques, à cette économie de marché, à l'import-export. Et en réalité, c'est uniquement de l'import pour permettre... Il n'y a rien à exporter.
Parce qu'on n'a pas une économie.
Il n'y a pas une économie fiable, solide, vraiment,
hors
les hydrocarbures, qui peut vraiment concurrencer les organismes internationaux. Donc, il fallait importer. Donc, l'ouverture, elle est faite pour importer, pour écraser les peu de sociétés qui existaient et pour donner naissance déjà à l'époque à l'oligarchie. Donc, c'est une ouverture qui a été contrôlée, dirigée dans un objectif bien déterminé. Et la preuve, le mouvement, il a été récupéré par la suite. Vous dites qu'il a donné naissance à des syndicats. Moi, je dirais qu'il a donné naissance à des syndicats d'une façon vraiment pas correcte. C'est un trompe-l'œil. On a trompé l'œil parce que lorsque vous attribuez un agrément à un syndicat sans pour autant lui donner la liberté d'activer, sans pour autant lui donner la liberté de marcher, de faire des marches comme le faisaient tous les syndicats à travers le monde, donc c'est beaucoup plus trompe l'œil.
Ils ne sont même pas reconnus comme partenaires sociaux.
Partenaires sociaux, on nous a confinés aussi, il faut le dire, dans un corporatisme, de fait, imposer un corporatisme. Pour avoir votre agrément, il faut être dans la corporation, sinon vous n'aurez pas cet agrément. Donc on nous a imposé un corporatisme qu'on essaie de dépasser avec des regroupements, avec tous les syndicats, et on arrivera, Inch'Allah. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu une ouverture. Il y a eu une ouverture contrôlée. Il n'y a pas une ouverture comme attendue. Par la suite, lorsqu'il y avait cette ouverture par les acteurs qui étaient sur le terrain, non, c'était contrôlé. Des partis politiques aussi qui agissent sur bouton poussoir, si j'ose dire, les partis politiques que l'on voit uniquement à chaque événement électoral. Donc, est-ce qu'on peut dire vraiment il y a cette ouverture? Donc, il y a une ouverture contrôlée.
Même la presse aujourd'hui, elle joue pas.
Il y avait l'ouverture de la presse, mais mis à part un ou deux titres qui ont disparu par la suite, avec, bien sûr, il faut le signaler, le chantage avec la publicité. Donc, vous marchez au pas, sinon vous allez mourir. Donc tout ça, est-ce que c'est des acquis? Est-ce qu'on peut dire que réellement, on a réussi 88? C'est pour cela, tout à fait au départ, j'ai parlé, c'est le temps des regrets. C'est le temps des regrets, pourquoi? Parce qu'on pouvait aller de l'avant, on pouvait vraiment changer de cap, et en changeant de cap, on pourra avoir une Algérie meilleure, beaucoup plus meilleure que celle qu'on a aujourd'hui de 2018. Donc on a raté le tournant de 88. C'est un tournant raté. Donc on a fait semblant de s'ouvrir à la société civile. On a fait semblant de lui donner des libertés, mais en réalité, c'est une liberté sous contrôle strict, beaucoup plus qu'avant 88. Donc, c'est des acquis. Moi, je dirais des acquis trompe-l'œil. Vis-à-vis de l'étranger, l'Algérie est démocratique, libre et démocratique.
Beaucoup de
syndicats s'activent, mais dans les réalités, on étouffe. Et on étouffe, réellement, on étouffe. Il suffit de voir ce qu'on a vécu en tant que syndicat autonome. Lorsqu'on a réclamé la suppression du décret 97-13, ce qu'on a vécu, embarqué dans les paniers à salade de commissariat en commissariat, donc y a-t-il une liberté vraiment d'expression ou bien syndicale dans ce pays? Donc c'était une liberté contrôlée, c'est une liberté trompe-l'œil et non pas une réelle liberté qui a émané du peuple. Parce que si elle émane vraiment du peuple, il faut la laisser mûrir, l'encadrer et aller de l'avant, aller très loin. Malheureusement, lorsqu'elle est imposée et contrôlée avec des garde-fous, là, on ne peut pas aller dire que c'est un acquis. C'est pour cela que je dis, c'est le temps de regret. Je mesure ce que je dis, c'est le temps de regret.
Oui, c'est le temps de regret. Quand même, il y a des formes de résistance aujourd'hui dans la société. Il y a des petits mouvements sociaux. Ce que vous faites dans les syndicats autonomes, ça veut dire même dans le corporatiste, du syndicat corporatiste, quand même, là, vous êtes en train de réfléchir à une confédération, des regroupements des syndicats. Justement, cette expérience de regroupement des syndicats, parlez-nous un peu de cette expérience. Est-ce qu'il ne peut pas aller sortir de ces, d'aller vers toucher d'autres secteurs économiques, toucher d'autres secteurs, pour créer un rapport de force et enlever le monopole de l'UGTA aujourd'hui?
Ben, c'est notre objectif, c'est-à-dire il y a un corporatisme qui est imposé de fait, mais qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de dépasser ce corporatisme. Comment dépasser ce corporatisme? C'est avec des regroupements. Avec des regroupements des syndicats autonomes de tous secteurs confondus. On a fait la première tentative de regroupement de syndicats, donc on l'a faite en 2007, et à l'époque j'étais à la tête de cette coordination des syndicats autonomes qui est composée de 14 à l'époque, avec le secteur de la santé, avec tous les syndicats, des professeurs, des spécialistes, des NSP, généralistes, l'éducation avec tous les syndicats. Pourquoi? C'est pour dépasser le corporatisme et aller de l'avant pour atteindre un objectif qui est d'avoir une confédération. Parce que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, il faut le signaler, en Algérie, on a une seule confédération qui est l'UGTA. Et si on ose comparer avec nos voisins immédiats, le Mali, la Tunisie, le Maroc, et on a des contacts avec eux, ils ont plus d'une centrale syndicale. Donc pourquoi en Algérie, il y a une seule centrale syndicale à qui on reconnu le droit de négocier, comme dans la tripartite ou bien les bipartites, et tous les syndicats autonomes sont exclus de fait. Je dirais pas exclus, mais diabolisés, c'est-à-dire
marginalisés
tout d'abord, et diabolisés, c'est-à-dire ils veulent pas entendre parler des syndicats autonomes. Donc notre objectif, c'est de dépasser ce corporatisme par des regroupements. En 2007, le catalyseur de ce regroupement, c'était le statut particulier qui nous a tous réunis. Donc on a fait un bout de chemin ensemble. On a fait des sit-ins, on a fait des grèves, à travers bien sûr la fonction publique. Et maintenant, il y a une autre tentative de l'intersyndicale. C'est le catalyseur qui nous a regroupés, c'était
la loi sur la retraite
nous a permis, le code du travail, ça nous a permis de se réunir. Mais cette fois-ci, au-delà de défendre cet acquis social, on s'est assigné un autre objectif, de déposer un agrément pour une centrale syndicale. Et on est en train de ramasser les dossiers administratifs pour aller vers le dossier d'une confédération. Cette confédération, moi je pense qu'elle va rendre espoir à l'ouvrier algérien, parce que ceux qui ont payé vraiment la bureaucratisation du syndicat, c'est les ouvriers, c'est la classe ouvrière algérienne, avec un seul syndicat, au lieu d'être, moi je le dis, porte-parole, comme le dit un ami, Laïb Kroub Al-Khair Nassar Djabi, au lieu d'être porte-parole des ouvriers vers le gouvernement, il est l'inverse, porte-parole du gouvernement vers les ouvriers. Donc on veut inverser cette équation. On veut être les porte-parole des ouvriers, porter les aspirations des ouvriers vers le gouvernement et non pas l'inverse, expliquer aux ouvriers les programmes des différents gouvernements. Non. Un syndicat, il doit défendre les intérêts socio-professionnels des ouvriers et des adhérents et non pas l'inverse. Donc notre objectif, c'est d'atteindre cet objectif vraiment, noble.
Très noble.
Très noble, avec un agrément pour s'imposer sur la scène syndicale, pour qu'il n'y ait pas vraiment un seul interlocuteur au pouvoir. Et on l'a démontré sur le terrain, on est vraiment, représentatif. Maintenant, avec toutes les actions que l'on fait, c'est pas vain, on peut le dire que c'est de la résistance. On est là et on résiste malgré le rouleau compresseur qui s'abat sur nous à chaque tentative, comme je viens de le dire. Vous initiez Une marche à Alger, vous êtes embarqué. Vous initiez une grève des embûches, que ce soit à travers les télés et les journaux. Malgré tout ça, on tient bon. Le cap, il est bien déterminé. On ira jusqu'au bout pour atteindre cet objectif, comme vous venez de dire, au combien nombre, d'avoir un agrément pour une centrale syndicale.
Effectivement, c'est un bon objectif et très noble. On vous souhaite bon courage et surtout, il faut de la solidarité par d'autres dynamiques sociales. C'est important, la solidarité entre nous. Je reviens à un autre point. Dans votre exposé, vous avez, si on compare la situation de l'Algérie actuelle et la situation de l'Algérie avant octobre, la veille d'octobre, on trouve beaucoup de points communs. Donc il y a la crise économique. Aujourd'hui, il y a la crise économique avec la chute du prix du pétrole. Il y a l'instabilité au sein du pouvoir central, donc avec des luttes claniques, il y a la même chose. Les manifestations. Est-ce que si ça continue comme ça, ça veut dire les pouvoirs publics continuer leur politique de sourde oreille, est-ce que on n'est pas au bord d'une autre explosion sociale, d'un autre octobre 88 avec une autre forme, pas obligé la même, mais une explosion sociale s'il n'y a pas des mesures concrètes sur le terrain sérieuses qui répondent aux attentes et préoccupations des Algériennes et Algériens.
Vous savez, il y a beaucoup de similitudes, vous avez raison. Il y a énormément de similitudes, mais si j'ose comparer les deux situations, moi j'ai vécu bien sûr avant 88. Avant 88, il est marqué aussi par des pénuries. Des pénuries vraiment, vraiment, vraiment insupportables. Vous savez, vous êtes dans l'époque dans ce qu'on appelle souk al-fellah, vous faites la chaîne et vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez acheter. Soit c'est les lentilles qui arrivent, donc vous achetez des lentilles, soit c'est du savon, vous achetez du savon. C'était des pénuries insupportables. On était, l'Algérie était en faillite. Elle était en situation de rupture de tout, rupture de stock et de vivres, et rupture aussi, c'est-à-dire on ne pouvait plus payer les factures. Et là, je vous donne une confidence que m'a raconté un ancien ministre. Il y avait un ramadan qui est arrivé. Ils avaient le choix, ils avaient de quoi acheter du café pour les citoyens pendant le ramadan, mais s'ils achètent du sucre, ils ne peuvent pas acheter du thé, et le thé est très demandé pendant le ramadan, et s'ils achètent du thé, ils ne peuvent pas acheter du sucre. C'est-à-dire, c'était une situation en rupture de économique totale. Ils ne pouvaient pas faire face aux factures extérieures, donc il y avait les pénuries. Ça, c'était un facteur prépondérant de 88. Il y avait vraiment rien. Il n'y avait rien de rien. Comme je viens de dire, vous faites une chaîne à l'époque, souk al-fellah, je me souviens, vous avez de l'argent dans les poches, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous en achetez, parce que vous allez acheter ce qui est arrivé dans le souk al-fellah. Cette situation actuellement, il faut le dire, elle n'existe pas. Mais la similitude, elle est dans la hogara. La hogara qu'il y avait à l'époque, il y avait le muhafaz à l'époque, le muhafaz siyasi de la daïra ou de l'heure, c'était le pacha. Lorsqu'il y a un arrivage dans les souk al-fellah, il est servi en premier lieu lui et toute sa famille et tous ses amis, et le peuple regardait des yeux impuissants. C'était le hogara, l'injustice. Cette injustice, le hogara, elle existe actuellement, mais elle est sous d'autres formes. Et je me rappelle, et là vraiment... Permettez-moi d'avoir une pensée au bébé qui est décédé, je crois, à Hussendé ou à Zmirli, faute de la pompe parce qu'il est asthmatique, alors que des milliards sont gaspillés sans venir en aide aux citoyens. Là, c'est une forme de hogara. La hogara qu'il y a actuellement, elle a un autre visage. Un autre visage hideux, vraiment hideux. Vous voyez, une simple grippe, elle est soignée dans un hôpital à Paris, et un bébé qui meurt pour une simple pompe, manque de pompe d'oxygène. C'est tout ça, c'est tout ce ras-le-bol que les gens sont en train de voir.
Les inégalités.
L'injustice sociale qui a donné ces inégalités. Vous voyez, tout ça, effectivement, existe. Et les gens, ils ont ras-le-bol. C'est-à-dire, je travaille, il travaille tellement qu'il est... Et ajoutez aussi la corruption. Là, c'est le point très important. La corruption actuellement a atteint un seuil vraiment intolérable de non-retour et qui met en danger la cohésion sociale. Et ce manque de cohésion sociale qui risque d'arriver à une explosion et une explosion incontrôlée. Lorsqu'une explosion est incontrôlée, c'est un raz-de-marée des citoyens que l'on ne peut pas contrôler. Que Dieu justement préserve l'Algérie, c'est-à-dire on doit prévoir, écouter la population et non pas faire la sourde oreille. C'est pas parce qu'il n'y a pas une réaction actuellement brutale qu'on est dans le bon sens, qu'on est en train de bien gérer, non. On a beau dire à l'époque aussi notre similitude, ce qu'on retrouve à Yad el-Kharijiya, la main de l'étranger. Avant 88 aussi, on disait la main de l'étranger. Actuellement, on entend aussi la main de l'étranger. Moi, je dirais qu'il peut pas y avoir de main étrangère s'il n'y a pas de main intérieure. Ne donnons pas l'occasion à cette main étrangère, même s'il existe. Même s'il existe cette main étrangère, moi, je dirais que c'est une conséquence. Mais la cause, elle est dans la mauvaise gestion. Elle est dans la corruption généralisée. Elle est dans le piston. Elle est dans le passe-droit, elle est dans le passe-droit de recrutement des jeunes, des milliers de jeunes, moi je dirais des millions de jeunes diplômés qui sont dans la rue. C'est tout ça qui peut faire l'explosion, tous ces arguments ramassés qui peuvent faire une explosion incontrôlée. Il y a des similitudes, mais la principale similitude qui a été en 88 n'existe pas. Mais d'autres similitudes qui n'existaient pas en 88 existent actuellement. Avant 88, il n'y avait pas autant de corruption. Peut-être qu'il n'y avait pas d'argent à voler. Mais actuellement, elle est vraiment accentuée. Actuellement, on met la danger, la santé du citoyen, y compris bien sûr l'éducation, on va en revenir. Donc c'est tout ça qui risque d'arriver vers une explosion incontrôlée. Le chômage, le hogra, la corruption, ces éléments-là peuvent déclencher un mouvement.
Justement, c'est un tableau vraiment... Il y a de quoi s'inquiéter de l'avenir, pour l'avenir. On va revenir, on va parler maintenant sur de l'éducation. Le système éducatif en Algérie, parce que quand même l'éducation elle est très importante pour une société, pour une nation, pour un pays. Ce que nous a autant que syndicat dans l'éducation, on constate que l'instabilité de l'éducation algérienne. Donc à chaque fois, il y a des ministres qui viennent avec une réforme, un autre ministre vient avec une autre réforme, on parle des réformes. Donc pourquoi à ce jour on n'arrive pas à stabiliser l'éducation en Algérie?
Stabiliser l'éducation en Algérie sur le plan formation, il faut avoir des objectifs. Et je me souviens de ce que j'ai dit à Madame la Ministre la dernière rencontre qu'on avait faite. Lorsqu'on n'a pas d'objectifs, on ne peut pas dire qu'on a échoué. Lorsque j'ai pas d'objectif, donc
la scolarisation.
On ne peut pas dire qu'on a échoué lorsqu'on n'a pas d'objectif. Bon, du point de vue scolarisation. On peut dire qu'on a scolarisé, on est arrivé au taux de scolarisation les plus importants à travers peut-être le monde, avec 9 millions d'élèves scolarisés, comparativement à l'indépendance où on avait 829 000 élèves scolarisés dans les trois cycles, primaire, moyen et secondaire. Donc on a fait un bond. Mais ce bond de 9 millions, est-ce qu'on a mis les moyens adéquats pour la pédagogie?
La qualité de l'enseignement.
J'arriverai à la qualité. Au moins, la prise en charge des moyens de l'élève, de la pédagogie. Lorsqu'on voit de loin le budget, c'est le deuxième budget après celui de la défense. Mais lorsqu'on le voit de près, il y a 85% de ce budget qui est absorbé par les salaires. Donc, qu'est-ce qui reste pour la pédagogie? Il ne reste que 15% pour la pédagogie. Si on fait une évaluation statistique comparative avec les autres pays, peut-être que le budget alloué actuellement pour l'éducation à 9 millions, il ne peut suffire peut-être à 2 millions d'élèves uniquement. Donc on est en train de faire encore, comme je disais tout à l'heure, je vais utiliser le même terme, c'est du trompe-l'œil. On est en train de prendre en charge, avec un moyen de 2 millions d'élèves, on prend en charge 9 millions d'élèves. Donc qu'est-ce qui va recevoir l'élève d'une façon pédagogique? Et qu'est-ce qu'on constate?
Donc c'est la gestion des flux, on peut dire c'est la gestion des flux.
C'est pas la gestion des flux, on est en train de gérer une quantité avec des moyens très insuffisants. J'ai pour gérer 9 millions d'élèves, j'ai besoin de temps. Mais si vous me répétez, si vous divisez le budget nécessaire à 9 millions par 4, donc je ne peux gérer que 2 millions. Donc on est en train de gérer un budget nécessaire uniquement à 2 millions peut-être, moins, on est en train de gérer ce budget avec 9 millions d'élèves. Donc toutes ces bavures, on les rencontre sur le terrain, sur le comment dirais-je, les comptes scolaires, sur le transport scolaire, sur la pédagogie de l'enfant avec la surcharge des classes. Lorsqu'on peut pas avoir un poste budgétaire supplémentaire, donc qu'est-ce qu'on fait? On est en train de, on doit regrouper les élèves dans une seule classe. Au lieu d'avoir deux profs, je n'aurai qu'un seul prof. Au lieu d'avoir 25 élèves, donc je vais avoir 50. En ramassant 50 dans une seule classe, donc je n'ai besoin que d'un seul prof au lieu de deux profs. Donc c'est toutes ces comment dirais-je, ce manque dans le budget qui fait qu'on est en train de patiner du côté pédagogique. Là, je parle du côté, comment dirais-je, formation. Il y a aussi la formation des enseignants qui laisse à désirer, pardon, parce qu'ils sont recrutés sur le tas. Lorsqu'on recrute quelqu'un qui n'est pas formé dans l'école normale, automatiquement, il y aura un manque du côté psycho-pédagogique. On essaie de le, de le corriger avec des formations, mais c'est des formations insuffisantes. Elles sont nécessaires, c'est vrai, mais je dirais qu'elles sont insuffisantes. Ceci du point de vue encadrement. Maintenant, les réformes. Lorsque vous importez une réforme du Canada, qui a réussi au Canada, elle va pas réussir automatiquement en Algérie. On peut pas faire une comparaison avec deux systèmes différents et deux sociétés différentes. Parce que pour pouvoir comparer, il faut créer ce qu'on appelle une jonction entre ces deux sociétés. Comme scientifiquement, il faut créer ce qu'on appelle un isomorphisme bijectif entre les deux et avoir la compatibilité de la comparaison avec les deux pays, politique, économique et sociale et sociologique de l'enfant. Donc on peut pas les comparer. Donc le système qui a réussi au Canada peut ne pas réussir en Algérie. Ce qu'il faut faire, on n'invente pas des systèmes éducatifs, mais prendre le système éducatif canadien et l'incorporer au système algérien, à la société algérienne. Pour pouvoir l'incorporer à la société algérienne, donc il faut qu'il y ait une touche sociologique. Il faut qu'il y ait une touche sociologique et idéologique. Et pour qu'il y ait une touche idéologique, je crois qu'il faut trancher le projet de société de l'Algérie. Donc l'Algérien, le projet de société n'étant pas tranché, donc on est en train de faire un équilibrage à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire un peu d'islamisme, un peu de laïcité, un peu de liberté, et là ça donne à rien du tout. Parce que c'est un amalgame qui n'est pas homogène, hétérogène, qui ne peut pas déboucher sur une formation claire. Et lorsqu'il n'y a pas une formation claire, là situe le danger. Où situe le danger? Une autre idéologie extérieure à l'école peut absorber l'idéologie de l'enfant. Et comme on dit, là j'ai dans la tête, la destinée noire n'est pas tombée du ciel. La destinée noire n'est pas tombée du ciel et un pédagogue, qu'est-ce qu'il disait? Avant de penser à désarmer la main, il faut penser à désarmer l'esprit. Donc il faut créer un esprit sain, avec une idéologie saine, bien déterminée, qui fait un consensus au sein de toute la société. Une fois qu'elle fait un consensus au sein de toute la société, voilà l'Algérien dont on a besoin du futur. Et on va aller là et on va se prémunir contre les interférences, les ingérences contrôlées. C'est-à-dire un élève bien formé, même lorsqu'il y a une infiltration qui peut lui faire du mal, il est préparé pour l'éliminer et non pas former un automate qui est prêt à recevoir, à être dirigé dans n'importe quelle direction qui peut lui faire mal et faire mal à la nation. Voilà, donc on est en train de se rechercher. Une fois, et moi je
c'est une société qui perd de plus en plus des repères.
Les repères, oui, les repères. Maintenant, question de repères, sincèrement, je pense c'est une question. Est-ce qu'encore une fois, le pouvoir qui veut se pérenniser, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer ce jeu? Ah, parce qu'une société qui perd ses repères, donc elle peut pas se retrouver. Et si elle peut pas se retrouver, donc elle va pas être revendicative, donc elle se laisse faire. C'est qu'en quelque sorte, c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est en quelque sorte ce qu'on est en train de vivre. Parce que j'ai toujours dit, lorsqu'on n'a pas d'itinéraire, on peut pas se perdre. Alors qu'on est égaré, alors qu'on s'est perdu, on s'est perdu éternellement. Mais tellement qu'on nous a pas tracé d'itinéraire, pour nous, on s'est pas égaré. Mais lorsqu'on n'a pas d'itinéraire, je le répète, on peut pas s'égarer. On peut pas dire que je me suis égaré. Mais si l'itinéraire était bien connu, comme vous venez de dire, nos racines, nos racines, nos valeurs. Voilà les valeurs. Donc, à tout moment, je me dis, ah, je dévie. Donc, c'est pas mon chemin, je reviens. Mais lorsque tout ceci n'est pas connu, l'itinéraire n'est pas connu, on peut pas se perdre. Vous sortez dans la capitale, vous n'avez pas où aller, vous marchez, est-ce que vous voulez vous perdre? Vous pouvez pas vous perdre. Par contre, si vous fixez un objectif, je dois arriver à la grande poste, vous savez que si vous n'atteignez pas la grande poste dans quelques minutes, vous êtes égaré. C'est ce qui se passe actuellement. On est des égarés éternels sans qu'on le sache, parce que nos valeurs, notre idéologie en tant qu'Algérien, on la connaît pas, on ne veut pas nous la faire connaître, donc on est des égarés éternels sans qu'on se rende compte qu'on est égaré. Et c'est pour cela que toute idéologie qui vient de l'extérieur absorbe notre jeunesse. Donc il faut repersonnaliser l'enfant algérien, il faut récupérer ses valeurs pour aller de l'avant. Et c'est le rôle de l'école. Si l'école joue ce rôle, je peux dire qu'on sortira. Avoir le courage de trancher le, comme je dirais, j'ai perdu le terme, trancher le pouvoir, le projet de société, une fois qu'il est tranché, donc on a un objectif à atteindre, allons-y vers cet objectif, mettre les moyens adéquats pour former un Algérien encadré dans l'unité nationale, avec bien sûr le respect mutuel.
Merci beaucoup, Monsieur Marianne, pour cette vraiment analyse, pour cet appel. J'espère que cet appel, il y aura de, qui va, comment dirais-je, Eden Saria. Donc, on est arrivé à la fin de cet entretien. Si vous avez à cette occasion un message à transmettre, quelque chose à ajouter, n'hésitez pas.
Merci pour cette opportunité. Moi, je resterai dans le cadre de l'éducation. Lorsqu'on élabore, je vais être encore plus explicite, lorsqu'on élabore un programme scolaire, on tient compte d'une chose très importante, c'est les constantes nationales, l'idéologie nationale et les coutumes. Et donc tout ça, c'est un objectif à atteindre. Et vient après le programme scolaire et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Mais lorsque ces objectifs sont occultes, donc on est en train de naviguer à perte de vue. C'est comme un bateau qui chavire avec les vagues et on ne sait pas dans quelle direction il se dirige. Donc on a besoin de visibilité. Le peuple algérien a besoin de visibilité, d'un côté. Et deuxièmement, aussi, on doit laisser le champ libre aux spécialistes des sciences de l'éducation de l'élaborer, un programme et d'aller de l'avant. Moi, je dirais qu'on ne s'immisce pas dans le secteur économique, on ne s'immisce pas dans le secteur culturel, mais on est en train de s'immiscer beaucoup plus dans le secteur éducatif avec tous les apesanteurs qui existent. Donc, dès qu'on essaye un peu d'aller de l'avant, ces apesanteurs reviennent pour nous tirer vers l'arrière. Donc, il faut dépasser, il faut avoir, une fois je me suis dit même, il faut arriver à avoir une constituante de l'éducation. C'est-à-dire mettre l'éducation dans les ministères de souveraineté et avoir une constituante de l'éducation de telle sorte qu'à ne pas toucher. Voilà, on s'est entendu. Donc, ne pas toucher. Voilà les moyens à mettre en œuvre pour aller de l'avant, pour former l'Algérien. Actuellement, on est en train de faire, on essaye, Madame la ministre de l'Éducation, il faut reconnaître, elle essaye de faire de son mieux. Et moi, je dirais qu'avant, elle a trouvé un désert. Elle est en train de faire, mais encore une fois, j'insiste, tant que le projet de société n'est pas tranché, on restera dans l'équilibrage. Et cet équilibrage n'est pas fait pour aller de l'avant, pour trancher définitivement l'avenir de l'école algérienne.
Merci beaucoup, Monsieur Marianne Mziane, pour cet entretien. J'espère vous rencontrer prochainement dans d'autres opportunités. Auditeurs et auditrices, on est arrivé à la fin de cet entretien. Au revoir.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.